Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale s'intéresse à la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, un instrument juridique fondamental qui concerne 1 milliard de personnes, soit 1/7 de la population mondiale. Le 13 décembre 2006, l'Assemblée générale de l'ONU a, après de longues années d'attente, adopté la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Alors 5 ans après, où en est-on? Qu'est-ce qui a changé? Quel est le quotidien des personnes à mobilité réduite ou atteinte de cécité? Comment la Convention, entrée en vigueur en mai 2008, est-elle appliquée? Autant de questions posées à Alexandre Cotte, responsable pour le renforcement des capacités au sein de l'Alliance internationale des personnes handicapées lors de la conférence annuelle des États parties à la convention récemment réunie à New York.
Ça a pris du temps à commencer, mais depuis qu'on a commencé, c'est allé plutôt vite, puisqu'on a pris 3 ans pour négocier la convention, qui a été adoptée en 2006, et depuis, il y a eu 103 États parties qui ont ratifié. Alors, on peut noter une certaine stagnation en termes de signatures, et il faudrait qu'il y ait plus de signatures pour atteindre au moins la ratification universelle vers 170. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a eu des premiers pas. Dans beaucoup de pays, des réflexions sur harmonisation de la loi avec la Convention, essayer de créer des structures pour faire le suivi de la Convention. Donc clairement, ça a eu un impact en termes de sensibilisation et de commencer le changement. Maintenant, si la question est qu'est-ce que ça a changé concrètement dans la vie des gens, là, je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire et tous les sujets qui sont abordés, que ce soit la participation politique, accès aux stations de vote, accès à la vie politique ou l'emploi, l'éducation, ou encore faire en sorte que les programmes de développement et de réduction de la pauvreté soient vraiment inclusifs pour les personnes handicapées, on en parle plus qu'avant. Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail et tout le monde le dit. Des progrès en termes de connaissance du problème, mais pas en termes de changements concrets dans la vie des gens.
Alors est-ce que justement il faut passer par ce type de transition? Est-ce qu'il faut avoir 103 pays pour essayer d'en avoir un 104e? Est-ce que les États qui seraient susceptibles de faire partie de cette convention essaient de participer au débat?
Il y a dans la salle les États qui ont ratifié, mais aussi les États qui ont signé, hein, et qui, pour beaucoup d'entre eux, sont en train de faire les aménagements légaux nécessaires pour pouvoir ratifier. Alors des fois on se dit « ça va vite ». Par rapport à d'autres conventions en termes de ratification, c'est une bonne chose. D'un autre côté, est-ce que c'est fait aussi sérieusement qu'il le faudrait? Ça, c'est autre chose. Par contre, ce qu'on note, et je pense que ça, c'est important, chaque année, il y a plus de propositions pour des événements autour de la conférence, il y a de plus en plus de questions. On sent que les États commencent à prendre ça vraiment très au sérieux et à essayer de faire quelque chose avec. Donc, je pense que le processus est engagé. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte que les gens gardent l'énergie qu'on avait pendant la convention, les négociations. C'était une dynamique très très forte entre organisations de personnes handicapées, États parties et agences UN. Là, il y a la création d'un fonds multi-bailleur. C'est un outil des Nations Unies pour soutenir les agences des Nations Unies sur le terrain à inclure dans leur programme la question du droit des personnes handicapées. Donc, il y aura certainement plus de possibilités en termes d'expertise pour aider les États parties à avancer sur des stratégies nationales, à essayer de mettre en place des harmonisations de législation, etc.
Alors justement, est-ce que ce problème du handicap ne souffre pas aussi du fait qu'il y a des réalités différentes, différentes formes d'handicap, mais aussi différentes formes de situations, je pense entre les pays développés et les pays en développement, et également tout ce qui accompagne en termes psychiques, en termes de perception de ces handicaps, c'est quelque chose qui est complètement différemment perçu?
Ah, bien sûr, on cite souvent la Suède, parce que c'est vrai que c'est un pays où il y a eu beaucoup de choses de faites. Dans beaucoup de pays de l'OCDE, énormément de choses ont été faites, pas toujours en lien avec le paradigme de pleine participation. Dans beaucoup de pays, il n'y a même pas de loi sur la protection des droits des personnes handicapées, parce que ce n'était pas quelque chose de considéré comme prioritaire. Il y a des statistiques. Dans les pays de l'OCDE, vous allez avoir une moyenne de prévalence à 15%, et dans les pays en voie de développement, à 2 ou 3%, parce que ce n'est pas compté de la même manière, ça n'intègre pas les mêmes personnes, etc. Ceci étant, ce qu'on note, c'est que dans tous les pays, par exemple le droit à l'éducation, dans les écoles ordinaires pour tous les enfants handicapés, beaucoup de pays, riches ou pauvres, ont les mêmes problèmes. Ils ont la même difficulté à le faire. Après, pas forcément pour les mêmes raisons. Si vous regardez l'accessibilité, il y a beaucoup de pays riches qui sont très inaccessibles, comme les pays pauvres. Donc il y a certainement une question de moyens alloués, qui est très différente. Mais en termes de paradigme et de société inclusive et de pleine participation, il y a beaucoup de défis qui sont communs, en fait. Et la perception culturelle, c'est aussi, c'est vrai, une question à quel point les personnes handicapées ont intégré le fait qu'elles avaient des droits. dans beaucoup de pays où on travaille, ce qu'on nous dit, c'est que en zone rurale, les préjugés, les enfants handicapés sont cachés, etc. Donc il y a tout un travail aussi au niveau des personnes handicapées, pas qu'au niveau des États, pour faire en sorte de vouloir revendiquer des droits et revendiquer la pleine participation.
Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations. Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation. Ce monde respire le même air, mais pas tout le temps avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange. Les handicapés.
Est-ce qu'aujourd'hui, justement, les réseaux sociaux, les nouveaux médias sont des éléments qui peuvent aider à mettre sur la table, à rendre plus visible le problème du handicap de façon générale ?
Alors déjà, il y a la question de l'accessibilité de tout ce qui est Internet et réseaux sociaux, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque si vous êtes une personne aveugle, ce n'est pas toujours évident, loin de là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on considère que la plupart des personnes handicapées sont des pays pauvres, donc l'accès à l'Internet, déjà. Par contre, c'est vrai qu'on voit déjà, par exemple, tout ce qui peut être forum de discussion, etc. Les personnes handicapées, dans beaucoup de pays qui ont eu une politique proactive sur ce qui est les technologies de l'information accessible, pour les personnes handicapées, c'est une énorme opportunité. Moi, j'ai travaillé sur un projet de soutien des personnes handicapées à pouvoir utiliser l'ordinateur, etc. Et vous avez des gens qui sont devenus webmasters. C'est des gens avec une quadriplégie qui n'auraient jamais eu un travail dans d'autres contextes. Donc, les technologies de l'information peuvent aider énormément. Après, les outils, comme on dit, Facebook et tout ça, ce qui a permis beaucoup de choses en termes de mouvements sociaux dans le monde arabe, etc. Est-ce que c'est vraiment utilisé par les personnes handicapées dans le maximum de ce que ça peut faire ? Non, pas encore.
Ça, c'est pour les personnes handicapées, mais pour les gens qui ne sont pas handicapés aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent prendre conscience, justement, grâce aux réseaux sociaux, peut-être qu'à côté de chez eux ou pas très loin, il y a des personnes handicapées, il y a différentes formes d'handicap, il y a différentes formes d'obstacles à la vie quotidienne ?
Alors, il y a tout un travail à faire sur la sensibilisation. Le problème, c'est qu'il faut que ça soit bien fait. Et que souvent, il y a des organisations qui font, par exemple, des campagnes Internet ou des choses et qui n'envoient pas forcément le bon message. Notamment si vous êtes, par exemple, une organisation prestataire de services et vous avez besoin de fonds pour faire fonctionner votre service, le message que vous envoyez n'est pas forcément toujours le plus positif, puisque vous voulez le soutien. Et...
Alors, est-ce que, justement, on plonge dans le misérabilisme et ce genre d'écueil ?
Encore, je trouve, dans beaucoup d'endroits, l'option charité, charitable sur le handicap, le pauvre handicapé qui a besoin de soutien, etc., est encore présente, plutôt que la personne handicapée citoyenne qui a des droits et qui a le droit d'aller à l'école, d'aller au cinéma, d'avoir un travail comme tout le monde, et que la société, elle a aussi sa part de responsabilité à permettre à tout le monde de pouvoir prendre sa place. Donc, je pense qu'il y a encore, en termes d'utilisation des médias sociaux, qui est potentiellement un outil formidable de sensibilisation, je ne connais pas de campagne vraiment formidable à ce jour. Mais il y a de plus en plus, par exemple, si vous allez sur YouTube, vous allez voir des vidéos très provocatives, etc. Donc, les gens se saisissent de ces médias. Maintenant, est-ce que ça atteint quelque chose d'optimal ? Non, je ne pense pas.
Est-ce que, par exemple, les campagnes également sur le sport ou l'accès au sport, on se souvient de cet athlète sud-africain qui a pu courir récemment un 400 mètres avec d'autres coureurs au championnat du monde en Corée. Est-ce que ce genre d'exploit ou en tout cas de médiatisation d'exploit par des personnes donc vivant avec handicap, est-ce que c'est à même de montrer que finalement les différences ne sont pas si importantes et qu'il y a quand même possibilité de mieux se connaître, de sensibiliser les autres au handicap ?
Il y a des avis divergents sur la question. Si vous me posez la question à moi et dans le travail que je fais, je dirais que ce que je voudrais voir dans les campagnes, c'est des vies ordinaires. C'est une dame en fauteuil avec ses gamins qui fait la vaisselle, son mari qui vient et qui n'est pas forcément handicapé, ou alors vice-versa, le père handicapé qui va chercher ses enfants pas forcément handicapés à l'école, ou etc., etc. Des choses ordinaires. Puisqu'en fait, la personne handicapée souvent a été illustrée, soit c'est le super-héros, c'est Pistorius qui court le 400 mètres, ou vraiment la misère. Mais l'ordinaire, la majorité des gens, très rarement montré. C'était Volvic ou Evian qui avait cette pub, les héros au quotidien. Et je pense qu'en fait, les personnes handicapées sont, en tout cas les personnes avec qui je travaille et que je vois souvent, c'est vraiment des héros au quotidien. Parce que si vous êtes une personne en fauteuil, ou une personne aveugle, ou une personne sourde, et que vous voulez avoir une vie ordinaire, mais c'est un combat, tous les jours, ça vaut les 400 mètres à la Coupe du Monde. Essayez à New York de prendre le métro. Vous allez avoir des stations accessibles, des stations pas accessibles. Il faut tout regarder à l'avance, etc. Essayez de prendre un taxi accessible, il n'y en a quasiment pas. C'est aussi ça, je dirais, l'extraordinaire dans la vie ordinaire des personnes handicapées.
est-ce que justement l'ONU, qui au début avait eu quelques problèmes sur l'accès même des participants à cette conférence il y a quelques années, est-ce qu'aujourd'hui l'ONU montre un peu mieux la façon de procéder et de faciliter la vie des personnes qui participent à cette conférence?
Je dirais de l'ONU et des bâtiments la même chose que j'ai dit à propos des États, c'est-à-dire il y a eu des efforts, on peut mieux faire. Il y a encore beaucoup de choses dans ces bâtiments qui ne sont pas accessibles, à New York comme à Genève. On voit des efforts, des agences UN qui, au niveau des pays, qui essayent de faire des choses, de rendre les choses accessibles ici aussi. Mais bon, c'est pas encore ça. C'est pas totalement accessible comme ça devrait l'être. Et c'est vrai que les UN devraient être le modèle.
Prenons-nous la main, le long de la route, choisissons nos destins, sans plus aucun doute, j'ai foi et ce n'est.
Il y a des noms, des jargons qui apparaissent où on reformule certaines réalités. On parle aujourd'hui de dépendance, on parle également des personnes qui deviennent, à cause de la vieillesse, dépendantes ou handicapées. On voit tout le problème de la maladie d'Alzheimer où parfois il y a des prises de conscience brutales dans certains pays. Est-ce qu'aujourd'hui ces situations, ces maladies, ces problèmes sont également pris en compte et est-ce que la conférence traite de ce genre de problème?
Alors la question du vieillissement et du handicap est une question qui est récurrente depuis quelques années, partout dans le monde. Beaucoup dans les pays de l'OCDE, puisqu'ils rencontrent des graves questions en termes de finances publiques là-dessus, mais aussi parce qu'il y a une prise de conscience, en fait, que beaucoup de personnes âgées sont, en fait, de facto des personnes handicapées. Après, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de personnes âgées ne veulent pas se qualifier de personnes handicapées. Elles ne s'identifient pas au mouvement des personnes handicapées. Et il y a tout un travail au niveau des Nations Unies sur peut-être une convention pour le droit des personnes âgées. Ce qu'on voit, c'est que la Convention des droits des personnes handicapées, parce qu'elle parle de vie autonome dans la communauté, parce qu'elle parle du droit au soutien personnel, etc., etc., couvre beaucoup de choses qui touchent les personnes âgées. Ce qu'on voit par contre, et qui est peut-être un peu plus inquiétant, c'est qu'au terme de finances publiques, c'est des fois les États, sous le nom de la dépendance, font un budget personnes handicapées plus un budget personnes âgées égale 1,5 budget dépendance, et non pas 2 ou 3. Et il y a aussi, sous les nouveaux mots, une façon de faire des économies. Et je pense que quelque chose qui est très visible actuellement en Europe, en Amérique du Nord, c'est ce que font les États pour restreindre les dépenses en termes de soutien aux personnes handicapées, alors qu'ils devraient faire l'inverse pour mettre en œuvre la Convention. Au moment où il y a une prise de conscience que plus de personnes handicapées existent, le rapport mondial parle de 15% et non plus 10% de la population, ben en fait, les États qui avaient fait des efforts dans les années 90-2000 ont tendance à revenir dessus. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez inquiétant.
Et quid de la prise en compte des situations des familles? On parle de personnes donc qui vieillissent et qui deviennent handicapées. On parle moins de l'entourage, des époux, épouses, des proches, des amis qui s'occupent de ces personnes pendant souvent des décennies et dont la situation parfois s'aggrave et qui est également dramatique.
Alors, la Convention prend en compte ce point-là. La Convention étant une Convention de droits de l'homme, s'attache à la personne, donc aux personnes handicapées. Mais dans le préambule et dans certains articles de la Convention, il y a bien référence à la nécessité de soutenir les parents des enfants handicapés, mais aussi dans un plus large contexte. Le rapport mondial sur le handicap de l'Organisation mondiale de la santé et de la Banque mondiale met bien en évidence le fait que la plupart des services pour personnes handicapées sont en fait rendus par la famille et les proches, sans aucune compensation financière, et ce, dans la plupart des pays du monde. Il y a un vrai travail à faire là-dessus. Ce que dit la Convention, par contre, et qui est important, c'est la notion de choix et de contrôle. C'est-à-dire que la famille et le soutien, mais elle protège des fois un peu trop, elle a peur, avec les questions sensibles des parents, qu'est-ce qui va se passer pour mon enfant handicapé quand je serai plus là, avec la tendance peut-être de vouloir des institutions très loin de la communauté, mais protectrices. Donc il y a toutes ces questions qui doivent être prises à bras-le-corps par les États, parce que ces familles et ces proches rendent un service à la société et aux personnes handicapées.
Voilà, et c'est avec Alexandre Cotte de l'Alliance internationale des personnes handicapées que se referme ce magazine Escale. Escale, magazine consacré cette semaine à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Un magazine présenté par Jérôme Longuet avec l'aimable complicité de Florence Westgaard et de Carlos Macias. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Je répète, radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.